session de philosophie par le père Marie-Dominique Philippe le 8 juillet 93 à Saint-Jeudard.
Je m'excuse pour le changement d'horaire aujourd'hui. Je crois que ça ne change rien à la pénétration de votre intelligence, mais ça modifie le contexte. Donc, excellent exercice pour montrer que l'intelligence peut dépasser les contextes. C'est bon comme expérience pour montrer que le point de vue psychologique peut dire quelque chose, mais ne touche pas le point de vue de la finalité. Notre finalité, c'est la recherche de la vérité. Alors, hier, au dernier cours, pas l'avant-dernier, si vous voulez, j'ai essayé de situer comment on aboutit à la connaissance profonde du « je suis », de ma propre personne, au niveau de l'être. Alors, je précise, tous, nous avons l'expérience du « je suis ». Tous, nous pouvons comprendre comment, à partir de la personne humaine, nous pouvons découvrir la nécessité de poser un premier dans l'ordre de l'être. Mais pour que cette démarche prenne toute sa signification, toute sa force contraignante au point de vue de notre intelligence humaine, il est évident que la philosophie première, la métaphysique, qui présuppose toutes les autres parties de la philosophie, donc qui présuppose la philosophie du facere, la philosophie de l'activité fabricatrice, la philosophie de l'agere, de l'acte moral, de l'amour d'amitié, la philosophie politique, qui présuppose, à partir de ces trois moments de la philosophie humaine, concrète, pratique, la découverte de l'intelligence séparée, comme dit Aristote, une intelligence qui cherche la vérité pour elle-même, ce qu'on appelle la philosophie spéculative, la recherche de ce qu'est la matière, la nature physique, matière et forme, la philosophie du vivant. J'ai une situation tout à fait remarquable pour situer, pour découvrir ce qu'est le vivant. Parce que je suis un vivant. Normalement, du moins, si on fait de la philosophie, on est un vivant. Et on est un vivant plus capable que celui qui a pris son petit déjeuner le matin. On est un vivant à l'abreuvoir. Et comme disait au Concile, quand on est à la cafétéria, l'œcuménisme est fait. Vous savez bien, c'est la vieille parole qui est dans l'Écriture. Abraham va auprès du puits avec son bétail, avec ses enfants, avec son épouse. L'œcuménisme est fait. Et c'est vrai. Il ne faut pas beaucoup de philosophie pour prendre un bol de café le matin. C'est naturel. Et si on le supprime, vous comprendrez qu'il y a une privation. On pourrait faire ça à titre d'exemple. exercice pendant la session, n'est-ce pas ? J'aurais dû vous dire ce matin, on prend pas de petit déjeuner pour voir si vous êtes capable de continuer un effort philosophique sans avoir pris le petit café. Alors, à ce moment-là, j'aurais des tas de petits mots. Mon père, je ne peux pas penser si je n'ai pas pris mon café le matin. Condition sine qua non. Je comprends très bien. Prenez votre café. Parce que on prend le café pour penser. On prend le petit déjeuner pour penser. C'est vrai. Et je comprends très bien qu'on est tellement habitué dès le réveil de prendre son petit café que c'est très pénible de retarder 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. C'est long. Mais notre intelligence est libre de ce conditionnement. Si elle est suffisamment vivante, je vous ai dit, propre de la philosophie, c'est d'éveiller notre intelligence. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, tout concourt à endormir notre intelligence, chloroformer notre intelligence, à faire que les hommes ne pensent plus. Je vous affirme que c'est une des finalités de l'adversaire. Les hommes, on les endort, on les conditionne. Et la télévision sert beaucoup à ça. Il faut qu'on soit averti pour maintenir en éveil notre intelligence. Et ces petites sessions n'ont pas d'autre but que d'éveiller l'intelligence. Oui, pour retrouver, j'allais dire, l'état naturel pureté de notre intelligence. Notre intelligence faite pour la vérité. Faite pour connaître le réel. Faite pour rencontrer la personne humaine. Puisque le réel le plus parfait, c'est la personne humaine. Et quand on rencontre une personne, pas seulement regarder son nez, ses yeux, la couleur de ses cheveux. Non, rencontrer une personne, c'est pas si commode. Au-delà de la sympathie ou de l'antipathie, découvrir une personne qui pense, qui est capable d'aimer, qui a quelque chose d'unique. Donc, toutes les parties de la philosophie s'achèvent dans la philosophie première, qui, elle, regarde la méta-expérience. Toute expérience au sens fort. Quand je touche cette table, quand je pense à la capacité que j'ai de laver mon bol, c'est du fatigué. Quand je pense à ma capacité d'aimer, toutes mes expériences internes et externes impliquent le jugement d'existence. Mais le jugement d'existence est enfoui dans toutes ces expériences. En dernier lieu, je mets en lumière ce qui est enfoui dans toutes ces expériences pour le mettre en pleine lumière. C'est ce que j'appelle cette méta-expérience, présente dans toutes les expériences, mais mise en lumière dans mon jugement d'existence. Ceci est. Et je le pense. Je ne le dis pas seulement, mais je le pense. Ceci est. Ceci existe. Et ceci existe pour moi, puisque je peux le penser. Et en le pensant, je remercie cette réalité qui existe de m'apporter quelque chose. Elle m'apporte différent. Un petit chat, c'est différent. On comprend tout de suite. Parce que ce sont des animaux domestiques. Mais le crapaud est moins animal domestique. N'est-ce pas? Il est fait pour des lieux qu'on n'habite pas beaucoup. Et ainsi de suite, le jugement d'existence pris à l'état pur, ceci est. C'est à partir de là que j'interroge, qu'est-ce que c'est que l'être? En pensant à la signification de ce verbe radical, fondamental. Alors les philologues s'intéressent beaucoup à voir comment, dans les diverses langues, le verbe être apparaît. Dans la langue grecque, le verbe être apparaît tout de suite. Dans la langue latine, il met très longtemps avant d'apparaître. C'est pas moi qui ai découvert ça, c'est un philologue remarquable qui faisait cette réflexion. Et je trouve ça très joli, du reste. Le génie d'une langue, on le découvre à partir de la découverte du verbe être. Je me souviens des discussions qu'on avait à Fribourg de temps en temps, quand on disait aux Arabes, vous n'avez pas le verbe être. Alors ils se mettaient en colère. Nous en avons 5 modalités, mais c'est pour ça que vous ne l'avez pas. Ça fait de la peine à comprendre. C'est très très curieux. C'est du reste très intéressant. Oui, on tourne autour. Le verbe être, c'est quelque chose de remarquable. Ceci est. Alors pour avoir toute la signification de ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? Et c'est quand vous posez la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Que vous êtes au seuil de la philosophie première. Vous voyez comme c'est bête. Ça n'apporte rien de savoir que c'est que l'être. Et c'est pourtant cela qui est le seul cordon ombilical qui me permet de remonter jusqu'à Dieu. Si je reste au niveau de la vie, je ne peux pas. Parce que je reste dans l'immanence. C'est le verbe être qui me permet de découvrir la distinction de ma connaissance et de la réalité. Grâce au verbe être que je pense, hein, pas que je dis, parce que quand je le dis, je l'ai pensé normalement. Hein, normalement, tout être bien constitué, on pense avant de parler. Il y a des êtres moins bien constitués qui ne pensent qu'après avoir parlé. Ça existe, il y a un partage des eaux là assez particulier. Mais des êtres mûrs, parce que l'enfant parle avant de parler, il y en a qui restent toujours des enfants. Alors ils parlent. Vous voyez, qu'est-ce que vous dites? Je ne sais pas, j'essaie de penser. Très bien, très bien, je parle. Et c'est vrai, il y a des conférenciers qui sont comme ça. On sent très bien. Il y a des mots qui sont à la mode, qu'on dit, et qu'on emploie tout le temps. Et puis derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien, rien du tout. Vous voyez, ça, c'est Socrate qui faisait ça, hein. Socrate disait aux gens, mais oui, vous parlez, mais vous ne pensez pas. Alors ça, c'est assommant. On parle pour qu'il y ait du bruit. Et on ne parle pas pour communiquer ce qu'on pense. On n'a pas le droit de parler sans avoir un désir de communiquer ce qu'on pense. Autrement, ce n'est plus la parole humaine. C'est le cri de l'animal. Et on revient au point de vue du cri, de l'instinct. C'est vrai, l'animal crie pour ses besoins. exprimer ce qu'il y a de plus radical, de plus profond dans une réalité qui existe. Elle est. Alors je dis bien, c'est une méta-expérience, parce que je n'ai jamais touché avec mon doigt l'être. Jamais. Seule mon intelligence touche l'être. Je touche les qualités sensibles. C'est rude, c'est froid, c'est chaud. C'est rond. C'est carré. C'est en mouvement. C'est immobile. Parce que je touche. Mais l'être. Alors ce qui fait comprendre que lorsque je dis ceci est, c'est mon intelligence qui assume la sensation du toucher. Parce que c'est le toucher qui est le sens le plus réaliste. Parce que quand on voit quelque chose simplement et qu'on ne l'a pas touché, est-ce que c'est un mirage? Vous savez, les soucoupes volantes. J'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Puis j'avais un ami qui suivait ça avec passion. Ça m'intéressait beaucoup au plan philosophique. Parce qu'il n'y avait pas de toucher. On voyait. Jamais rencontré quelqu'un qui disait qu'il avait touché une soucoupe volante. Il la voyait. Il l'entendait. C'est intéressant, toucher quelque chose. C'est l'intelligence liée à la main. Puisque le toucher, c'est surtout la main. Parce que quand vous touchez qu'avec le pied, vous heurtez. J'ai heurté un caillou. Ne dites pas que j'ai touché un caillou. Non, 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 non. Vous ne l'avez pas caressé avec le doigt de pied. Vous ne pouvez pas, vous pouvez évidemment. Sur des pieds nus, on peut caresser les cailloux. C'est pas à cause de ça qu'on prend les pieds nus. Voyez, c'est pas pour caresser les cailloux. Mais on heurte quelque chose avec le corps, avec le pied. On touche la main. Et la main est liée à l'intelligence. Et ceci distingue l'homme de l'animal. Morphologiquement, il y a quelque chose de très curieux. Le toucher, c'est le sens de la vie et c'est le sens réaliste par excellence. Toucher les sensibles propres et l'intelligence au-delà de la sensation atteint ce qui est. Et l'intelligence peut alors poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, si durant cette session, vous pouvez arriver à comprendre l'importance de cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous n'aurez pas perdu votre temps, parce que vous commencez à comprendre le vrai réalisme, ce que Descartes, notre cher Descartes, n'a jamais compris durant toute sa vie philosophique. Absence totale du verbe être. Cogito ergo sum. Hein, voyez ça. Ça, c'est le gargarisme de Descartes. Il n'existe que quand il pense. Alors, quand il dort, vous pouvez le tuer, il n'existe plus. Et tous les bons Français n'existent que quand ils pensent. C'est pour ça qu'ils cherchent toujours à penser et à parler. Il y a des gens qui n'existent que quand ils parlent. Donc quand ils sont en conversation à plusieurs et qu'ils ne parlent pas, au bout de 5 minutes, ils commencent à s'énerver. Moi, je dis ça. Parce qu'il est temps que vous existiez. Descartes n'a pas saisi l'exister avant son cogito. Il a donc restreint l'existence à son cogito. Il n'y a que Dieu qui peut contempler avant que le monde existe. C'est le propre de Dieu. Il se contemple et il est créateur. Et tout commence à partir de cette contemplation de lui-même. Si Dieu existe, hein, en tant que philosophe, si Dieu existe, si Dieu existe, il est là. Alors, j'ai découvert que Dieu existe, je peux donc dire que toute la contemplation de Dieu est antérieure à la création de mon être. Mais ceci, c'est propre de Dieu. Pour le philosophe, il s'aperçoit, grâce à cette méta-expérience, que l'exister de toutes les réalités est antérieure à sa pensée. Une fois que vous avez découvert ça, vous commencez à être réaliste. Et votre idée n'est plus première. Vous vous libérez vous-même de cette cage d'or qui est votre cogito. Avant ma pensée, le monde existe. C'est quand même quelque chose, ça. Et ça, c'est la découverte grâce à cette méta-expérience et l'interrogation: qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que la réalité existante avant mon cogito, avant ma pensée, avant mon jugement? Quand je dis ceci est, mon jugement, ceci est, n'a pas changé la réalité. C'est moi qui suis changé par la réalité. Et donc je touche là, vous voyez, quelque chose de capital, ce que Étienne Gilson a mis très en valeur, cela, en disant qu'au fond, toute la diversité des pensées philosophiques provenait tout simplement de ce fait où la pensée est première et l'être est second, où l'être est premier et la pensée est seconde. Et c'est très juste. Et quand vous dites ceci est, vous découvrez la priorité de ce qui est. Donc, en langage philosophique, sa transcendance. Vous voyez, la première expérience de la transcendance, c'est le jugement d'existence. Et immédiatement après, vous découvrez votre immanence dans le jugement. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est votre plus grande immanence. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et vous restez en état d'attente. Parce que c'est le propre de l'interrogation, c'est de mettre mon intelligence en état d'attente. Platon dit, comme le chien de chasse qui est en face d'un fourré et qui attend parce qu'il y a du gibier. Il n'entre pas dans le gibier, il est en état d'attente. Vous voyez, mon intelligence est en état d'attente, elle est tendue vers la réalité. C'est cette réalité qu'elle respecte. Parce que cette réalité est antérieure à moi. Elle existe avant moi. Et c'est pour ça que je la respecte. Vous voyez, c'est très important cela, de comprendre ce premier moment de la rencontre de quelque chose qui est plus ancien que moi, que je respecte et qui me transcende. Parce qu'il est antérieur à ma connaissance. Il est capable de déterminer ma connaissance. C'est à partir de là que la métaphysique, la philosophie première, va pouvoir s'élaborer. Je vous ai dit hier, très rapidement, que la métaphysique, c'est la réponse à premier dans ce qui est en tant qu'il est, du côté de la cause formelle. Et ce qui est premier dans ce qui est en tant qu'il est, du côté de la cause finale. Il y a deux découvertes en métaphysique. La découverte de la substance, ce qui est fondamental dans l'être. Alors là, on pourrait dire, en nota bene, que le mot substance en français est désastreux. Il vient du latin, du reste. Et c'est désastreux comparativement au grec. Parce que ousia, c'est lié à être. Et c'est pour ça que Ricoeur, quand il faisait un cours sur la substance en Sorbonne, disait étance. Alors c'est évident que ce n'est pas un mot français, là, c'est un mot ricorien.
Premier dans l'ordre de toutes les déterminations. Et je me
pose l'autre question. Qu'est-ce qui fait que l'être est parfait comme être? Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui est ultime dans l'être? Et je dis l'être en acte, à la différence de l'être en puissance. Donc, Ousia, et puis l'être parfait. Sur un haut palier, et puis tout d'un coup, ça dégringole. Et ça va très vite aujourd'hui. la dégringolade. Très très vite, la dégringole. Parce que je croyais à moins d'arbres, c'est pour ça que ça dégringole plus vite. Vous voyez ? Alors, ça dégringole, il y a des chutes terribles qui vont très rapides, des chutes de pierre extraordinaires. Nous sommes l'être qui, dont la croissance est la plus grande. Et à travers tout cela, nous sommes l'être le plus un. Il y a quelque chose en nous qui demeure. Il y a quelque chose en nous qui est toujours terme. Notre âme et notre finalité. Ce qui donne le sens à toute cette croissance. Toute cette croissance est pour cette finalité. Et toute cette croissance n'existe que grâce à cette source. Vous voyez, il faut très fort revenir à cette distinction très fondamentale, être et devenir. Et comprendre que toutes les positions philosophiques se ramènent à la différence entre devenir et ce qui est. L'être. Alors, où vous séparez les deux complètement à Heidegger, où vous ramenez le devenir à ce qui est, où vous ramenez l'être au devenir. Trois positions. C'est toujours le devenir et l'être. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Vous voyez la distinction entre la vie et l'être, c'est que la vie, notre vie végétative, implique un devenir. Notre vie passionnelle, affective, implique un devenir. Notre vie spirituelle, intellectuelle, amoureuse, affective, volontaire, implique un devenir. Mais, à l'intérieur de ce devenir, il y a quelque chose qui demeure, qui est. C'est notre être. Notre être, il est. Donc, toute la métaphysique, c'est d'essayer de découvrir ces deux grands aspects de l'être, substance, fin. Ce qu'il y a d'ultime, ce qu'il y a de fondamental. Et en dernier lieu, je découvre que ce qui est un, ce qui est en puissance est multiple. Ce qui est substantiel est un, ce qui est accidentel est multiple. Ce sont des distinctions secondaires comparativement à cette distinction fondamentale, être et devenir. Le devenir est toujours multiple, l'être est un. Seul l'être peut être simple. Tout ce qui en vous est simple, c'est votre être. Tout ce qui en vous est complexe, multiple, c'est vos accidents. C'est votre potentialité. Et en dernier lieu, la métaphysique va essayer de comprendre comment en moi être et devenir font l'unité de ma personne. Ma personne implique un devenir. Je deviens une personne. Quand vous êtes en face d'un tout petit enfant qui vient de naître, vous ne dites pas « Oh, cette personne admirable !» Vous n'avez jamais dit ça. Et si vous dites ça, tout le monde va éclater de rire. Vous dites, oh, ce qu'il est gentil, ce petit. Il est délicieux. Et puis quand il sourit, c'est merveilleux. Et vous dites pas, oh, quelle personne admirable. Quand il aura 30 ans, ah, on est en face d'une personne. Hein, c'est curieux. Le mot personne implique tout votre devenir. Vous êtes responsable en partie de votre personnalité. pas responsable de votre être. Mais vous êtes responsable en partie de votre devenir. Qu'est-ce que vous pouvez gérer? C'est votre devenir. Vous ne pouvez pas gérer votre être. J'aime beaucoup l'éléphant. Je voudrais que l'être de l'éléphant soit en moi. Non, impossible. Le devenir de l'éléphant, peut-être. Vous pouvez peut-être faire de l'exercice pour arriver à être aussi gros qu'un éléphant. Mais peut-être, avec des piqûres, on arrivera peut-être à modifier ça. Un homme éléphant. Vous pouvez modifier votre devenir. Est-ce que vous modifiez, c'est le devenir, c'est pas l'être. C'est très important cette distinction. Parce que par le devenir, je ne peux jamais atteindre le premier. Et toute la culture d'aujourd'hui, elle est dans le devenir. Et donc Dieu est absent. Il faut comprendre ce vide. Parce qu'on est dans le devenir, on est dans la croissance, on est dans l'évolution. Tout change, tout change, tout change. Vous savez, il y a cette petite parole, cet extrait sec, mais j'ai le droit de m'en servir au point de vue philosophique. Je me sers de tout au point de vue philosophique. Cette parole extraordinaire des disciples d'Emmaüs. Quand ils reviennent de Jérusalem, après cette journée si importante, la journée mondiale, internationale, de la résurrection. Extraordinaire. Tout le monde est agité à Jérusalem. Et Jésus est en dehors. Pourquoi? Parce qu'il est. Je suis. Il est en dehors de toute cette tumulte, tout de suite. Non, non. C'est toi qui n'es pas au courant. Non. Dieu est absent de cette tumulte. Ça me fait penser, moi. Je trouve ça merveilleux, moi. Le devenir et l'être. C'est étonnant. Il est absent. Que l'être est étranger au devenir. Non, c'est pas ça. Mais l'être est au-delà. Vous savez, en montagne, quand vous voyez la mer de nuages, ça, c'est le devenir. Puis au-dessus, la lumière. C'est l'être. L'être est lumineux. Il est lumineux, l'être. Parce qu'au sommet, l'être est esprit. Ma métaphysique me sert à comprendre plus profondément le « je suis ». Et je me pose la question, après toute ma métaphysique de la substance et de l'acte, mon « je suis » distingue de tous les autres « je suis ». Et donc les autres « je suis » ne me font pas comprendre davantage ce que je suis. Je suis d'une originalité unique au plan métaphysique. C'est extraordinaire. Au plan métaphysique, je suis unique. Et chacun d'entre vous peut dire ça. C'est très réconfortant. Je suis unique. Et je me pose la question, est-ce qu'il existe un être qui est au-dessus de tous les hommes? Au-dessus du monde. Est-ce qu'il existe un être qui est et qui n'est que être, l'être premier, sans devenir, puisqu'il est premier. Le devenir appelle toujours un autre, toujours. Le devenir n'est jamais seul. Vous n'êtes jamais seul dans votre devenir. C'est le multiple. Est-ce qu'il existe un être qui est un? Voilà la grande question philosophique. Et la question qui se pose tout le temps. Et ne dites pas, je vais la résoudre, je ne la poserai plus. On la résout et on la repose. On la résout et on la repose indéfiniment. Parce qu'on sait que la découverte qu'on fait était une découverte qui est tellement fantastique pour mon intelligence humaine, qu'elle est très faible. Je découvre l'existence d'un être premier à partir partir de cette expérience, je suis un être qui aime. Voilà la première expérience. Je pars de là. Je suis un être non seulement qui est capable d'aimer, mais qui aime. J'ai l'expérience d'aimer. Tout être bien né à cette expérience-là. Il est capable d'aimer un autre et il aime un autre. Et j'ai l'expérience que l'amour n'est parfaitement amour que lorsqu'il y a réciprocité d'une personne à l'égard d'une autre personne. Voyez, tant que vous aimez quelqu'un et que vous ne savez pas si cette personne vous aime, vous êtes dans l'inquiétude. Et quand cette inquiétude dure trop longtemps, vous êtes dans l'angoisse. Je ne sais pas si j'ai aimé, pourtant j'aime follement. Et puis la personne que j'aime, jamais ne me regarde. Si elle était aveugle, ça ne me dérangerait pas, mais elle ne l'est pas. L'amour ne se développe pleinement que lorsqu'il rencontre une cette expérience est adéquate à l'être. je connais l'être qui existe, l'être qui est. Et je dis non, cette expérience n'est pas adéquate à l'être. Pourquoi? Parce que si cette expérience était adéquate à l'être, je saurais que mon amour pour cette personne ferait que cette personne, parce que je l'aime, moi-même qui éteins l'amour pour que j'y suis. J'ai un petit été noir. Je fais que, écoute, mon cher ami, je suis très fatigué. Permets, je vais dormir. Après, on s'aimera mieux plus. Oui. Mais j'arrête. Cet amour qui, en lui-même, est au-delà du temps. Mon amour n'est pas premier dans l'ordre de l'être, il est limité. S'il est limité, il dépend d'un autre. Alors là, je me sers de ce grand principe métaphysique de la finalité. Tout ce qui est limité dépend d'un être, d'un acte premier. Tout ce qui est limité implique la puissance, implique la potentialité. La source de toute limite, c'est la potentialité. Quelque chose qui n'est pas encore un acte. Et donc qui est second. Toute potentialité est seconde, elle n'est pas première dans l'ordre de l'être. Elle est ordonnée à ce qui est premier. Et donc, à l'intérieur de mon amour, qui provient de moi, de ma substance spirituelle, et qui rejoint l'amour spirituel de l'autre, il y a cette limite. Mon ami, celui que j'ai choisi comme ami, peut éveiller en moi l'amour. Et donc, à ce point de vue-là, il peut me finaliser, c'est vrai. Il est bien ma fin, il est bien mon bien. Mon ami est pour moi fin. Mais mon ami n'est pas ma fin au niveau de mon être. Il est fin au niveau de l'intentionnalité de mon amour, mais pas au niveau de l'être de mon amour. La preuve, c'est que mon ami ne peut pas supprimer ma fêlure métaphysique à l'intérieur de mon amour. Il ne supprime pas cette limite à l'intérieur de mon amour. S'il ne supprime pas cette limite à l'intérieur de mon amour, mon ami lui-même demande d'être dépassé. Et cet amour mutuel de l'un et de l'autre, si noble, si grand qu'il soit, demeure avec cette fêlure. Il faut donc nécessairement que cet amour des deux qui fait une certaine unité, il faut cet amour des deux soit dépassé par un premier amour qui n'est qu'amour, amour spirituel. Ceci est nécessaire, autrement mon amour n'existerait pas. Or, il existe, j'en ai l'expérience. Il provient de moi, il s'enracine dans ce qu'il y a de plus secret en moi, de ce qu'il y a de plus profond dans ma personne, dans mon je suis. Et cependant, il implique cette fêlure. Voyez, c'est l'unité entre ce qu'il y a en moi de plus actuel et en moi de cette limite radicale, cette fêlure radicale. C'est l'union des deux qui me montre que je ne peux pas être premier dans l'ordre de l'amour. Et puisque cet amour existe et qu'il n'est pas premier, cet amour appelle, exige de poser un premier. Et ceci, c'est le principe de finalité qu'il exige. Tout ce qui est en puissance réclame quelque chose qui est avant lui et qui est en acte. Principe de finalité. Cet amour d'amitié dont j'ai l'expérience premier dans l'ordre de l'amour. Ce qui est simple dans l'ordre de l'amour peut être cause de cet amour qui, mon amour, à l'égard de mon ami, qui implique cette fêlure. Vous voyez, c'est une démonstration a posteriori qui ne fait appel qu'au principe de finalité et de l'expérience la plus radicale qui est en moi, cet amour d'amitié. Autrement dit, je peux dire que tout amour d'amitié réel appelle l'existence de Dieu. C'est pour ça que Dieu est un Dieu caché. Parce que si l'amour de Dieu pour moi faisait nombre avec mon amour, je le verrais. Dieu serait gênant. Parce que, en dehors de Dieu, quand il y en a un troisième qui se fout là-dedans, ça ne va pas du tout. Quand j'aime quelqu'un, et qu'un autre dire, mais je vais venir t'aider à aimer cette personne. Hein, voyez ça. Ah, je vais vous permettre à vous aimer vraiment. Non, pas du tout. Tu ne feras que me gêner. Parce que l'amour humain ne tolère pas un troisième. Et l'amour humain, quand il est fort, ne tolère pas un troisième. Et ne tolère pas une intervention extrinsèque. Tellement l'amour est quelque chose de fort et me touche dans ce qu'il y a de plus substantiel en moi. Autrement, c'est plus l'amour. C'est la camaraderie. Un camarade avec un autre camarade, très très bien. Plus on est nombreux, plus on rit. C'est le vieux dicton, n'est-ce pas? Oui, oui. Pas plus on est nombreux, plus on aime. Ah non, 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 plus on rit. Oui, 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 oui. La métaphysique fait la différence entre le rire et l'amour, ce qui est quand même important. Le rire manifeste l'amour, mais le rire n'est pas l'amour. Plus on est nombreux, plus on chante. Oui, mais pas plus on aime. Parce que le chant manifeste l'amour, mais le chant n'est pas l'amour. Quand on aime intensément où c'est le silence. La propriété d'amour, c'est pas la parole, c'est pas le chant, c'est le silence. Parce que c'est le don. Il faut comprendre ce caractère très absolu de l'amour d'amitié, du véritable amour d'amitié. Il fait que deux personnes sont une dans leur amour. que ce soit rare, je veux bien. Et ça existe. Et on est fait pour ça. Et tant qu'on n'a pas cette expérience-là, il nous manque quelque chose. On le sent bien. Et c'est dans cette expérience-là que je suis le plus proche de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Humainement parlant, hein. La grâce fera que Jésus nous a aimés le premier et que par Jésus, il y a un chemin nouveau, mais par la grâce. C'est pas la philosophie, ça. C'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette voie d'accès, qui pour moi est la première. Vous voyez, c'est la cinquième voie de saint Thomas que je fais passer avant toutes les autres. Parce que dans ma découverte métaphysique de l'amour, c'est vraiment de l'existence de Dieu, c'est vraiment par l'amour que je découvre Dieu. Je rejoins cette parole très simple de saint Thomas, qui montre que saint Thomas a très bien compris tout ça. Mais il ne l'a pas dit. Mais c'est présent dans saint Thomas. Il ne l'a pas dit. Et même si je fais sans dire, ah, vous n'êtes pas du tout dans le sens de saint Thomas. Au contraire, j'explicite le point de vue métaphysique des quatre, des cinq voies. Mais saint Thomas le donne au niveau critique théologique. Il y a un fondement métaphysique. Saint Thomas nous dit que c'est par l'amour que je suis le plus proche de Dieu. C'est pas la connaissance. La connaissance vient au service de l'amour. Si ceci est vrai, si c'est par l'amour que je suis le plus proche de Dieu, proximité ontologique, proximité réelle, c'est donc par l'expérience de l'amour humain que je peux le mieux découvrir l'existence de Dieu. Je peux évidemment me laisser prendre par l'absolu de cet amour humain et dire ça me suffit, j'ai pas besoin que Dieu existe, c'est suffisant que mon ami existe. Attention, attention, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que votre amour implique une fêlure. Et que vous voudriez que cette fêlure n'existe pas. Et comment faire pour que cette fêlure n'existe pas? Il faut la dépasser. La fêlure peut être un mur qui vous arrête et qui vous empêche d'aller plus loin. Ça peut être quelque chose qui vous enlise. Une fêlure peut vous enliser. Et c'est tout le problème moderne. C'est que toutes les fêlures enlisent. Tous les obstacles, on voit le point de vue de l'enlisement. De l'inconscient qui naît à partir de là. Et l'inconscient, c'est l'enlisement. Vous ne pouvez pas dépasser l'inconscient par l'inconscient. C'est une vérité de la palisse. Et quand je dialoguais avec mes psychanalystes, je revenais tout le temps là-dessus. Ils étaient furieux. Je leur disais quoi? Si votre science est une science, vous devez pouvoir comprendre ce que c'est. Dites-moi ce que c'est que l'inconscient. Ils ne disaient pas, ils ne savaient pas. Je faisais Socrate à ce moment-là. Dites-moi ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai pas l'expérience. Alors, dites-moi ce que c'est. Alors, on a dû aller au zoo après 3 heures de discussion. Mais il faudrait ici avoir un petit zoo, n'est-ce pas? Il faudrait demander au maire de faire à Saint-Jodard un zoo extraordinaire pour se reposer de temps en temps après un cours de métaphysique. Il n'y a rien qui repose plus l'homme que de regarder le singe. Il y a un singe en liberté, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont trop sages, ils ne sont plus en liberté. Alors là, on comprend ce que c'est que l'inconscient. On comprend. Retour à l'animal. C'est pas par l'animal que je vais découvrir Dieu. Dieu a créé des animaux pour des gargouilles. qu'est-ce qui en moi est le plus humain, le plus spirituel, ce qui me fait le mieux comprendre ma pauvreté et ma noblesse, c'est l'amour d'amitié. Et c'est cet amour d'amitié qui me permet de toucher la nécessité de poser un amour premier qui ne fait pas nombre avec mon amour d'amitié et qui en rend raison, qui lui donne son vrai sens, son sens ultime et dernier. Il est nécessaire qu'il existe un être premier, esprit, personne, qui soit un amour pur. Vous voyez, c'est très beau de voir que la métaphysique, si je la prends du côté de la personne, et donc du côté de ce qui pour moi est le plus immédiat, la métaphysique me met en présence de Dieu amour. Mais comme la métaphysique est joannique. Et vous pouvez poser toutes les questions là-dessus. Ça m'intéresserait beaucoup. Toutes les objections, on peut y répondre. Métaphysiquement, on est là, sur la forteresse. Là, vous me direz, ah oui, mais l'amour est intentionnel. Attention, l'amour d'amitié touche une substance et une personne. Je ne dis pas n'importe quel amour. Vous ne pouvez pas découvrir Dieu à partir de vos nostalgies. J'ai la nostalgie, oh, terrible, terrible. Vous êtes grand. Mais vous n'allez pas découvrir Dieu parce que vous avez le désir d'être grand. Ah, j'ai la nostalgie d'être infini. Et tout ça est imaginatif. Vos nostalgies, c'est l'imagination. Et vous ne découvrez pas Dieu dans l'imagination, parce que l'imagination, c'est le devenir. Vous découvrez Dieu à partir de la réalité. Et votre amour d'amitié vous fait découvrir l'ami, qui est une personne spirituelle, qui vous aime. L'ami n'est pas le miroir, c'est l'eau. Qui existe et qui existe parfaitement dans son esprit et qui vous aime. Et là, à ce moment-là, vous avez vraiment un nœud. La rencontre de deux amours, c'est un nœud. Mais un nœud qui n'est pas du tout quelque chose qui me refoule. C'est un nœud qui me permet d'aller plus loin. Alors, il peut très bien se faire, il faut ajouter ça parce que c'est important, il peut très bien se faire que dans l'amour d'amitié, l'un découvre l'existence de Dieu par cet amour d'amitié et l'autre pas. Alors là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui dépasse l'amour. Mon intelligence, c'est à travers l'amour, mon intelligence qui pose existence à un être premier. Et ça, c'est très important de le comprendre. Il faut que mon intelligence, vous voyez, soit présente dans mon amour. Pour pouvoir se servir, comprenez, servir, hein, c'est pas du tout détruire, c'est pour pouvoir coopérer, c'est plus juste, pouvoir coopérer dans ce qu'il a de plus profond avec cet amour pour décrypter la présence du premier amour, d'un être qui n'est qu'amour. Ce n'est pas l'amour de mon ami qui fait découvrir Dieu. Hein? C'est l'expérience interne et externe. Les deux sont présentes dans un amour d'amitié qui me fait découvrir par l'intelligence la réalité première qui est une personne et qui est un amour. Et ça, c'est important, parce qu'autrement, je resterai dans l'immanence de mon amour. C'est l'ami qui existe, qui est source de mon amour. Et c'est l'intelligence que j'ai de cet ami et de cette source d'amitié qui me permet de poser le troisième. L'existence d'une source qui est fin de mon amour et qui est vraiment un être qui, lui, n'a pas de limite et qui est Dieu pour moi. Vous voyez, c'est le concours de l'amour et de l'intelligence. Et c'est cela qui est très important à comprendre, que c'est le concours de l'amour et de l'intelligence, donc d'un amour spirituel. L'amitié est un amour spirituel, autrement c'est plus l'amour. C'est pas un amour passionnel. L'amour d'amitié implique la passion, mais dépasse la passion. La passion ne pourra pas me faire découvrir Dieu. Non. Il y a des êtres très passionnels qui ne découvriront jamais Dieu dans leur vie. Pourquoi ? Parce que la passion reste au niveau sensible. Et donc c'est comme un gros nuage qui me met loin de Dieu. Pour que la passion me conduise à Dieu, il faut que cette passion soit éclairée de l'intérieur, purifiée de l'intérieur par l'intelligence qui veut rejoindre l'ami et qui ne demeure pas dans la passion. Celui qui vit la passion et qui demeure dans la passion, dans un amour de jouissance à l'égard de son ami, ne découvre pas Dieu. Il ne peut découvrir Dieu que lorsque cette passion s'est purifiée et que, au-delà de la passion, il aime vraiment l'ami comme ami pour ce qu'il est. Il l'aime comme une personne distincte, autre que lui, plus grande que lui. Et c'est à partir de là qu'il peut alors découvrir l'existence d'un être premier, d'un amour premier. C'est, je crois, la première voie d'accès. Et elle ne peut être atteinte que dans cet amour d'amitié actuel. L'ami n'a pas besoin d'être présent là immédiatement, hein, c'est pas ça. Il faut actuer en soi cet amour d'amitié. Et si je réfléchis sur cet amour d'amitié qui touche la personne, l'ami, dans ce qu'il a d'unique, dans ce qu'il a de plus personnel, que je découvre l'exigence de poser une fin à cet amour d'amitié. Alors réfléchissez sur cette voie d'accès qui est la plus simple, la plus profonde, la plus radicale, qui exige l'expérience de l'amour d'amitié, qui exige la saisie très limpide du principe de finalité. Tout ce qui est en qui est au-delà de toute venir et qui est premier. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Et c'est ces deux autrement dit, c'est l'expérience illuminée par ce principe qui me fait comprendre la fêlure de mon amour d'amitié, qui me fait comprendre dans mon amour d'amitié l'exigence de poser